Bonsoir à tous. Ce soir, on va commencer à étudier le premier âge de l'Église, l'âge d'Éphèse. On appelle l'âge d'Éphèse, on peut l'appeler la période ou l'époque. Moi, je vais l'appeler l'âge d'Éphèse. Prions. Seigneur Jésus, je te prie de nous éclairer et que ceux qui doivent croire, croient et que les autres oublient tout ça. Merci Seigneur de ce que tu bénis ceux qui croient et que tu les aides à se situer dans la foi et dans l'histoire, afin qu'ils portent du fruit dans leur temps. Je te demande dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce soir, on étudie le premier âge de l'Église. Cet âge est appelé l'âge d'Éphèse. Alors, on va le lire, c'est dans Apocalypse 2, versets 1 à 7. Apocalypse 2, 1 à 7, écrit, alors c'est Jésus qui parle, et qui dit à Jean, qui se trouve sur une île à Patmos, et lui dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Dans d'autres versions, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà, alors l'ange à qui Jean écrit, c'est l'homme envoyé de Dieu à l'église primitive. Vous vous rappelez, je vous ai dit, le mot ange, c'est le même mot que envoyé ou apôtre. Donc, c'est Paul, c'est l'apôtre Paul. Ce temps est décrit dans un livre scellé par un sceau, et quand on brise ce sceau, on peut comprendre ce qui signifie. Et on se rend compte, quand on étudie ces choses-là, avec à l'idée ce qui s'est produit par la suite, c'est-à-dire que la prophétie s'est réalisée, maintenant nous avons l'histoire de l'Église écrite, et bien alors nous pouvons réaliser que celui qui a véritablement influencé l'Église de Jésus-Christ à cette époque, et bien c'est l'apôtre Paul. Donc, voilà comment nous pouvons identifier l'ange de l'Église d'Éphèse. Alors, ce fameux sceau, il y a un sceau sur une lettre. Vous savez qu'il y a, autrefois, les livres, c'était des rouleaux, et puis qu'on mettait un sceau en cire, et puis, tant que le sceau n'était pas brisé, on ne pouvait pas savoir ce qui était écrit. Alors, là, nous avons donc des livres qui sont donnés, et puis voilà, que l'agneau ouvre un des sept sceaux, donc le premier sceau. Alors, on trouve ça dans Apocalypse 6, 1. Je vis alors l'agneau, c'est-à-dire Jésus, ouvrir un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour remporter la victoire. Très beau, mais ça veut rien dire. C'est-à-dire que l'apôtre Jean, quand il a écrit ça, il n'a pas compris ce que ça voulait dire. Et puis, par la suite aussi, et pendant des siècles, les gens n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Il fallait qu'un prophète ait la révélation pour que nous puissions connaître ce que cela signifie. Et maintenant, Dieu a parlé, et nous savons ce que cela signifie. C'est-à-dire que ça n'est plus scellé, c'est ouvert, on peut le comprendre. En brisant ce sceau, on peut comprendre ce que signifie Apocalypse 6, 1, 2. Alors, la révélation donnée, c'est que Jésus a déjà parlé de cela quand il était sur la terre. On le trouve dans Matthieu 24, 4, 5. Matthieu 24, c'est un drôle de chapitre parce que tout semble embrouillé, mais quand on a la révélation des sept âges et des sept sceaux, tout prend sa place. Alors, voici ce qui est écrit sous le premier sceau. Eh bien, Jésus en avait déjà parlé dans Matthieu chapitre 24, précisément au verset 4 et 5. Jésus dit « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Ah, beaucoup viendront sous mon nom et ils égareront des gens. Eh bien, ce sont ces fameux Nicolaïtes, ce sont ces fameux faux envoyés, ces faux apôtres. Il est dit, tu les as éprouvés, tu as vu qu'ils sont pas envoyés de Dieu et tu les as trouvés menteurs. Donc Jésus avait dit, voilà, ça va arriver, il va y avoir une apostasie, il va y avoir des faux prophètes parmi vous. Donc, ces trois pièces sont les trois pièces qui s'emboîtent parfaitement, c'est-à-dire Matthieu 24, 4-5, et puis aussi Apocalypse 2 avec la lettre à Éphèse, et Apocalypse 6 avec le premier sceau qui est ouvert. Ce sont trois pièces qui s'emboîtent parfaitement, et Paul est absolument fidèle au message de Jésus, il est sous l'influence du premier être vivant. Vous vous rappelez, quand on lit l'Apocalypse 6, il y a un être vivant, Jean y voit un être vivant. Et qu'est-ce que c'est que cet être vivant? Eh bien, c'est un des quatre êtres vivants dont nous parle l'Apocalypse. Le premier a une tête de lion, le deuxième de bœuf, le troisième d'homme, et le quatrième être vivant, une tête d'aigle. Et le premier âge de l'Église, il a une tête de lion. Pourquoi? Parce que c'est le lion de Juda, c'est le symbole du lion de Juda, c'est-à-dire de Jésus. Paul apportait la parole de Dieu parfaite. Et donc cet âge-là était dans la bonne connaissance des bonnes choses, et l'Église était ce qu'elle devait être, parce qu'il est sous l'influence de cet être vivant à tête de lion, qui représente le lion de Juda. C'est un être vivant qui est dans la présence de Dieu, hein, autour du trône de Dieu avec les trois autres. Donc Paul est sous l'influence de ce premier être vivant, et cet être vivant donne le ton à l'époque. Le premier être vivant, si vous voulez, je peux vous le montrer, il est décrit dans Actes 4, versets 5 à 7. 4, 5 à 7, il est dit là, enfin déjà on peut voir ça devant au verset 6, hein. Devant le trône il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal, au milieu et tout autour du trône se tiennent quatre êtres vivants couverts d'yeux, des yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a un visage d'homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Ces quatre êtres vivants ont chacun six ailes, ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Donc c'est un être vivant qui est là pour donner le ton, pour apporter une protection, pour donner le ton à cet âge, à cette époque de l'Église. Et à cette époque, donc, c'est Paul qui est là, et l'être vivant qui ressemble à un lion. Alors, il est question des œuvres, leurs œuvres, leur travail accompli, leur persévérance, tout ça c'est louable. Parce que c'est conforme à la volonté de Dieu. Vous rappelez, je vous ai démontré que à cette époque-là, jusqu'en 70 à peu près, les premiers chrétiens vivaient comme Jésus avait voulu la vie d'Église, sans une hiérarchie de petits chefs de rayon, et de papes et de trucs comme ça. Donc jusque à peu près depuis 53 à 170, peu après la mort des apôtres, tout était encore bien. Il y avait la vie communautaire, nul ne disait que c'est bien, l'appartenance propre. Mais il commençait à y avoir des dissensions, des problèmes. Enfin justement, on va voir tout ça. À cette époque, donc, les chrétiens vivaient en conformité avec la volonté de Dieu. Mais, et comme je vous le dis, ça se trouve à peu près entre 53 et 170 quand on regarde l'histoire, quand on lit l'histoire de l'Église. Donc les chrétiens reconnaissent les faux envoyés de Dieu et ils les mettent à l'épreuve. Ils les mettent à l'épreuve de la parole de Dieu qu'ils connaissent, n'est-ce pas? Si un apôtre vient puis qui dit quelque chose de contraire, on le rejette. On dit non, tu n'es pas un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu, un homme ou une femme qui se serait présenté à l'époque en disant faut prier la Vierge Marie, se serait fait jeter de l'église immédiatement. Si un homme ou une femme était venu en disant oh, j'ai la révélation que il faut prier pour les âmes du purgatoire, il se serait fait jeter immédiatement. Pourquoi? Parce que les premiers chrétiens connaissaient les paroles de Jésus, ils entendaient les apôtres et ils savaient ce qui était vrai. Et donc, on ne pouvait pas facilement leur raconter des bobards. Donc, la persécution commence. Les chrétiens souffrent à cause du nom de Jésus parce que, voilà, bon ben, il y a des difficultés qui viennent de l'extérieur. Par contre, ils sont bien. L'Église elle-même est bien, ils sont forts. Et il y a juste un reproche. Jésus a quelque chose contre eux, c'est que ils ont abandonné leur premier amour. Il faut dire que juste après la mort de l'apôtre Paul, eh bien, les chrétiens commencent à vivre en synagogue, c'est-à-dire en assemblée. Vous savez que les synagogues, elles ont été créées pendant la dispersion des Juifs à Babylone, puisqu'ils n'avaient plus le temple, ça n'était plus une théocratie, ils étaient en quelque sorte en esclavage, et pour pouvoir se retrouver, ils ont créé des assemblées. En français, c'est le mot assemblée, mais synagogue, c'est le mot assemblée. Et puis, ils se réunissaient là, le Shabbat, et voilà. Et puis, l'Église, leur amour se refroidissant, pas leur amour pour Dieu, ils avaient toujours de l'amour pour Dieu, mais l'amour pour les frères et sœurs commençait à se refroidir un petit peu de plus en plus. Et puis, ils ont commencé à dire, bon, écoutez, on n'est pas obligé de vivre ensemble les uns sur les autres, ça devient casse-pied de faire la queue à la salle de bain, non, j'ai n'importe quoi. C'était pour des petits détails, mais il y avait des problèmes d'ordre humain, quoi, je veux dire, dans l'Église, et leur amour se refroidissait de plus en plus, et de plus en plus les communautés se désagrégeaient, ils se mettaient à vivre donc en synagogue, c'est-à-dire en assemblée, ils se retrouvaient de temps en temps dans la semaine pour prier, pour louer Dieu, et pour écouter des prédicateurs. Et Jésus leur dit de se souvenir d'où ils sont tombés, parce qu'ils sont tombés quand ils ont arrêté de vivre en communauté, l'Église a chuté. Et Jésus leur dit, souviens-toi d'où tu es tombé, tu as abandonné tes premières œuvres. Souviens-toi quelles sont les œuvres que tu as abandonnées, cet amour fraternel, cet amour communautaire. Et Jésus les menace, hein, carrément, il leur dit, si vous ne le faites pas, je vais ôter la lumière qui est chez vous, et puis il faut vous repentir, il vous faut changer d'attitude, sinon je vais enlever la lumière. Et en fait, c'est ce qui va arriver, ils vont pas se repentir, ils vont continuer comme ça, et Jésus va enlever petit à petit la lumière, et les chrétiens vont se laisser embrigadés par toutes sortes de fausses doctrines, de faux docteurs. Et puis quand même, Jésus les félicite aussi, toujours donc pour l'Église de cette époque-là, il les félicite d'avoir de la haine. C'est curieux, n'est-ce pas? Tu détestes l'œuvre des Nicolaïtes. Alors, il dit, œuvre que je déteste moi aussi. Voilà, le Dieu d'amour qui a de la haine pour l'œuvre des Nicolaïtes. Faut penser que, à votre avis, hein, ça doit quand même être grave, l'œuvre des Nicolaïtes. Qu'est-ce que ça peut bien être, l'œuvre des Nicolaïtes? Alors, j'ai regardé, j'ai au moins une quarantaine de Bibles chez moi, et j'ai des Bibles pour pasteurs avec des notes très importantes, j'ai toutes sortes de choses, mais jamais on ne nous dit ce que c'est qu'un Nicolaïte. On nous dit, oui, ça devait être une secte associée à Balaam, ces choses-là, on ne sait pas exactement. Ta 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 ta. Vous savez pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils sont eux-mêmes des Nicolaïtes. Je vous explique. Le mot Nicolaïte vient de deux mots grecs, nikaos, qui signifie dominer, et laos, qui signifie le peuple. Ça a donné le mot laïque. Donc, l'œuvre des Nicolaïtes, c'était une œuvre de domination sur le peuple. Il y avait des hommes, ça ne doit pas être des femmes. En général, les femmes, elles sont toujours mises au fond, derrière, de côté, hein. Dans les religions, c'est comme ça. Et alors donc, voilà, ces bonhommes se sont mis à dominer sur le peuple de Dieu. C'était plus le Saint-Esprit qui conduisait, mais c'était ces gens, ne sais-je pas, avec une forte personnalité. Alors étant donné qu'ils s'aimaient de moins en moins, puis qu'ils avaient des problèmes entre eux, et puis que l'apôtre Paul avait dit qu'il fallait pas aller voir les tribunaux humains, bon, alors donc les Nicolaïtes ont fait chou gras avec ça, ils ont commencé à diriger, à organiser, et puis ça a donné au diable l'occasion de commencer une œuvre dans l'Église naissante. Le diable s'est introduit comme ça par les œuvres des Nicolaïtes, c'est-à-dire une œuvre de domination sur le peuple. Alors maintenant, ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire vous voyez les églises, maintenant vous avez à Rome, vous avez le grand pape, n'est-ce pas? Puis vous avez toute une hiérarchie, essayez de demander un rendez-vous avec le pape, vous allez voir comment c'est facile. Et puis après, on peut pas leur jeter la pierre. Les protestants, ils se sont très très vite organisés sous le même système, ils n'ont pas de pape, ils ont un bureau central, c'est à peu près pareil. Les évangéliques, la même chose, les pentecôtistes, pareil, je ne parle pas des branhamistes, etc. C'est toujours pareil, c'est toujours le même schéma pyramidal. Des Nicolaïtes avec c'est pas une autorité, puis le peuple en bas qui doit se soumettre, sinon on le vire. L'excommunication, n'est-ce pas? Vous croyez pas comme eux, on vous vire. Alors voilà, c'est l'œuvre de domination des hommes ivrés, hein, c'était de l'ivraie, et ils ont commencé à vouloir diriger l'Église à leur façon, et non pas avec l'aide, le secours et l'inspiration du Saint-Esprit. Alors on voit ça sous le premier sceau. L'être vivant dit, viens, et Jean voit apparaître un cheval blanc. Oh, le beau cheval qu'il est blanc, comme c'est beau, c'est la pureté, n'est-ce pas? Vous les Africains, je suis pas en train de dire que le noir c'est pas bien, mais je suis pas raciste. Mais dans le symbole, c'est vrai que le blanc représente, pas le blanc, l'homme blanc, mais la couleur blanche représente, n'est-ce pas? La pureté. Eh ben, ce n'est pourtant pas Jésus qui monte ce cheval, loin de là. C'est un imposteur, c'est un Nicolaïte. C'est un imposteur, le cheval blanc, il s'est déguisé, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, il a pris une apparence de sainteté, de pureté, mais c'est un imposteur. Cet imposteur imite Jésus qui, lui aussi, est monté sur un cheval blanc. Si vous lisez Apocalypse 19, vous allez voir que Jésus monte aussi sur un cheval blanc. Alors, ceux qui connaissent pas bien les Écritures, ils disent, ah, ben, c'est le même cheval. Non, 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 c'est pas le même cheval, hein, pas du tout. Apocalypse 19, 11, 14, il est dit, là, je vous le lis. Voyons, 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 où est-ce que c'est? Les armées célestes le suivaient, montées sur des chevaux blancs, habillés de fin lin et pur. Voilà. Attendez, verset 11. Ensuite, je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut, celui qui le montait fidèle, s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec justice, ses yeux étaient comme des flammes de feu. On comprend, c'était Jésus. Mais le premier cheval blanc, là, dont on vient de parler dans l'Église, c'est une imitation de Jésus. C'est justement l'œuvre des Nicolaïtes qui commence, c'est l'imitation. Ce n'est pas Jésus du tout, pas du tout. Mais c'est l'esprit du diable qui s'est déguisé pour s'introduire dans l'église. Et puis alors, il est armé. Mais il n'est pas très efficace. Hein. Si vous regardez bien, il a un arc, mais il ne vous a pas dit qu'il a des flèches. Alors un arc sans flèche, ça sert pas à grand-chose, mais c'est déjà, ça montre son intention. Il n'a pas des intentions très pacifiques. Et quand vous étudiez l'histoire de l'Église, vous allez vous apercevoir qu'après avoir été persécuté par Rome, la Rome impériale, eh bien, la véritable Église a été persécutée par la Rome vaticanesque, je ne sais pas comment on peut dire, enfin, par l'Église catholique naissante. Alors, sous ce premier sceau, il nous est dit qu'il reçoit une couronne, donc ce cavalier sur ce cheval blanc. Et il se comporte comme un roi, hein, qui part en vainqueur dans le but de vaincre. Quoi? Bah, de vaincre l'Église. Et ce cheval va changer de couleur durant toute l'histoire de l'Église. Vous allez voir, à chaque fois, on trouve un cheval et il devient différent. Alors, voyons ce qu'en disait donc Jésus dans Matthieu 24. On revient à Matthieu 24. 24, 4, 5, il est dit, faites bien attention que personne ne vous égare, en effet beaucoup viendront sous mon nom, diront c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Voilà, ça, c'est ce que Jésus dit au sujet de cette époque-là, et que personne ne vous égare. Jésus prévoyait donc bien que des gens chercheraient à égarer les chrétiens. Ils disent « Je suis le Messie ». Ils disent pas « Je suis Jésus ». Ils disent « Je suis le Messie », c'est-à-dire ils disent « Je suis oint ». Parce que Christ, ça veut dire oint. Messie, c'est le même mot que Christ, ça signifie oint. J'ai l'onction, moi, et une onction que vous n'avez pas, et puis ça me permet de dominer sur vous, parce que c'est de par Dieu que je détiens cela, n'est-ce pas? Et puis alors, bon ben c'est vrai que les apôtres, les prophètes, tout ça, il y a des vrais, mais là, il commence à y en avoir des faux, qui sont des faux oints. Ils sont oints, mais leur eux, ils sont faux. C'est des gens qui prétendent être oints, mais ce sont de faux oints qui égarent les gens. Alors les Nicolaïdes, ben ils font des miracles aussi, hein. Oh là là, oui, parce que l'onction n'est pas forcément fausse, c'est eux qui sont faux. Les faux Christ. C'est eux qui sont faux, c'est pas forcément l'onction. C'est pourquoi il y en a qui font des miracles en mon nom, etc., etc. Eh oui, mais à la fin, ils sont dévoilés. Alors les Nicolaïtes, ces gens qui dominent sur les chrétiens, en faux oint, ils sont oints, mais ils sont faux. Judas était oint. Judas était oint, il faisait des miracles, mais il était faux. Hein. Jésus savait que cela commencerait dans le début de l'histoire de l'Église. Il y aurait cette histoire-là de faux oints, de gens qui viennent pour égarer le peuple. Et puis, ensuite, le deuxième sceau se brise pour que nous comprenions ce qui est écrit dans Apocalypse 3:6. On va le voir, c'est Apocalypse 6:3, c'est le deuxième sceau qui est brisé. Alors, quand il ouvrit le deuxième sceau, donc c'est Jésus qui ouvre le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens !» et un autre cheval rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent et une grande épée lui fut donnée. Là, l'être vivant, c'est celui qui ressemble au taureau ou au bœuf, si vous voulez. Ça dépend des versions. Pourquoi ? Mais parce que les Nicolaïtes ont réduit l'Église en esclavage. C'est des bêtes de somme. Amen, amen, amen. Les chrétiens sont sous l'influence de ces dominateurs imposteurs et l'être vivant n'est plus le lion, mais c'est le taureau. Il a de la force encore, il vient du trône de Dieu, il inspire les véritables chrétiens, mais c'est quand même, l'Église a perdu beaucoup de son pouvoir, de son autorité, parce que les faux, les Nicolaïtes, ont usurpé cette autorité. Matthieu 24, c'est là que Jésus explique la chose, quand il était sur terre, il a dit, vous entendrez, au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent, cependant ce ne sera pas encore la fin. Les premiers chrétiens, quand ils ont vécu ces choses, ils ont pensé que pour eux c'était fini, parce que ça, c'était tellement grave. Alors, on va lire la deuxième lettre envoyée à l'ange de l'Église, Apocalypse 2:8. Et vous allez voir qu'est-ce que ces gens ont vécu à l'époque. On appelle cette époque, l'époque, n'est-ce pas, de Smyrne. C'est le deuxième âge de l'Église, c'est juste après 170. Alors voilà ce que Jésus dicte à Jean, il lui dit écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, qui signifie amer. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, donc on reconnaît, c'est Jésus. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue, une assemblée de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir, ils vont souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le un cœur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. L'âge de Smyrne, on passe donc à une autre époque de l'histoire de l'Église. L'Église est dans la détresse, l'Église est dans la pauvreté. Fini le temps où il n'y avait pas d'indigents. Dans l'Église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Vous lisez Actes chapitre 4, verset 34, vous allez voir, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient tout en commun. Là, ils ont arrêté de vivre en commun. Alors, vous avez des gens riches, vous avez des gens pauvres. Enfin, comme maintenant. Maintenant, vous avez des gens extrêmement riches qui se disent chrétiens, puis à côté, vous avez des pauvres. Et puis, même vous avez des pauvres qui mendient devant les églises. Voilà, donc déjà c'est fini, il n'y a plus cette égalité, cette fraternité, ce souci de l'autre. Non, les vrais chrétiens, bon ben quand même, ils sont riches spirituellement, mais voilà, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens, ils sont dans des difficultés. Et des soi-disant juifs, qui sont de la synagogue de Satan, règnent sur l'Église. Donc on comprend tout de suite ce qui se passe là, c'est qu'il y a des gens qui se prétendent juifs, mais qui ne le sont pas, parce que tous ceux qui se disent juifs ne le sont pas. Dieu connaît les siens, ils peuvent être nés juifs, mais ne le sont pas. Moi je connais des juifs qui sont tout sauf juifs, c'est-à-dire ce que Dieu attend d'un juif, ben, en tout cas eux, c'est pas, ils sont pas ça, hein. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, dire tout ce qu'ils veulent, mais leurs fruits montrent qu'ils ne sont pas des véritables juifs, mais de la synagogue, c'est-à-dire de l'assemblée de Satan. C'est terrible, hein, parce que la Bible dit la vérité, on ne peut pas l'inventer, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis alors, se réclamer, dire que moi ouais, je suis juif, c'est formidable, je suis juif de par ma mère, c'est oh là là, c'est quelque chose. Et puis alors, on prend l'autorité, bande de Nicolaïtes. Alors c'est la guerre un peu partout, ça se passe entre 170 et 312 après Jésus-Christ, c'est une période terrible. Et l'homme que Dieu a envoyé à cet âge, c'est Irénée. C'est pas qu'Irénée était formidable, formidable, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit. Mais disons que c'était celui qui était le plus sensé, le plus proche de la réalité, de la vérité. Il n'était pas idolâtre, il n'était pas... Alors, voyant le désordre, Irénée, principalement, a lutté contre des hérésies, et particulièrement contre une hérésie qui s'appelle la gnose, qui existe toujours. C'est pas, c'est des gens qui disent « vous n'êtes pas sauvés par la grâce, mais par la connaissance ». Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas être sauvé. Alors moi je connais des tas de gens qui connaissent rien du tout, sauf une chose, c'est que Jésus-Christ est leur sauveur, et ça, ça suffit pour être sauvé. Amen. Eh bien, toute la connaissance peut enfler, mais c'est l'amour, n'est-ce pas, qui édifie. Alors maintenant, eux, ils avaient toute une piste. Alors c'est très intelligent, si vous lisez la gnose, oulala, c'est très intelligent. Alors ces gens, donc, infiltrés dans l'Église, persécutaient ceux qui refusaient de croire comme eux le voulaient, et mais c'était très loin. Et puis ça a continué en s'aggravant jusqu'à nos jours. C'est pourquoi Paul écrivait, on va lire, il écrit aux Corinthiens, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il écrit au chapitre 6 et au verset 17-18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Déjà à l'époque, l'apôtre leur dit, il faut sortir de là, hein. Il ne faut pas rester dans ces églises. C'est devenu du n'importe quoi. Enfin, quand je dis l'apôtre Paul est mort à cette époque-là, mais déjà à l'époque de l'apôtre Paul, il leur dit de sortir. Parce qu'il luttait contre les gnostiques aussi. Et puis, c'est la première secte chrétienne, les gnostiques. Et puis, mais ils existent toujours, hein, ils sont toujours là. Hein, ils existent toujours. C'est une bande d'intello, de pseudo-intello. Et puis alors, ça s'est aggravé. Et Jésus parle de 10 jours de persécution intense. Ces 10 jours, en fait, ont été des jours d'année. C'est-à-dire, ça a été 10 ans sous l'empereur, un empereur qui s'appelait Dioclétien. Et ça a été la persécution la plus sanglante de toute l'histoire de l'Église. Donc la prophétie s'est accomplie. Mais quand Jean a écrit ça, il savait pas, il comprenait pas. Il l'a écrit, c'est tout. C'est une prophétie et c'était scellé. Et il a fallu que le prophète vienne pour pour enlever le sceau, pour qu'on puisse comprendre les choses par l'esprit. Alors, je vous ai déjà dit, c'est le prophète William Branham qui a eu toutes ces révélations en fin des temps. Le mot Smyrne, donc, signifie amer. Donc, deuxième âge de l'Église, signifie amer. Les gens étaient amers. Ils étaient délivrés par Jésus-Christ de leurs péchés, les véritables chrétiens, mais ils étaient quand même amers. Ils étaient quand même amers. C'était dur. C'était dur. Ce mot Smyrne est dérivé du mot myrrhe. La myrrhe, c'était utilisé pour embaumer les morts. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, cet âge est un âge amer, rempli de morts. Ça a été le temps où l'Église et l'État, il y a eu le fameux Constantin, n'est-ce pas, qui était tout sauf chrétien. Hein. Alors ils ont mis ils ont mis à mort l'Église en fait. Ils ont mis à mort l'Église. L'Église est devenue une Église d'État, plus du tout dirigée par le Saint-Esprit, mais par Rome, c'est-à-dire la Rome politique à l'époque. Et puis Irénée, qui est né à Smyrne, en 147 après Jésus-Christ, a vécu donc sous l'influence d'un homme qui s'appelait Polycarpe, qui lui-même avait été disciple de Jean. Donc il savait de quoi il parlait. Et en 170 après Jésus-Christ, Irénée s'est établi à Lyon, en France, comme évêque. Et il n'était pas aussi fidèle que Paul, mais... Il n'était pas aussi fidèle que Jean non plus, mais bon, c'était, à mon avis, c'était quand même celui qui a marqué son époque, son temps. C'est lui qui a marqué le plus son temps. Il y en a eu d'autres aussi, mais disons qu'à mon avis, c'est lui qui a marqué son temps. Il est le premier occidental à réaliser une œuvre théologique systématique, c'est-à-dire qu'il a voulu mettre de l'ordre, vraiment, parce qu'il y avait un désordre incroyable, incroyable, incroyable. Il y avait à cette époque un grand besoin de fixer la tradition orale, de la mettre par écrit. Parce que tout était... il y avait des bouts de parchemin qui parcouraient tout l'Empire romain, enfin voilà, mais il y avait beaucoup de traditions orales, on racontait des histoires qui tenaient pas debout, des histoires des fables, des trucs pas possibles. Donc... il a décidé de mettre tout ça, toute cette tradition par orale pour faire de l'or. Parce que, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais jusqu'aux environs de 130 après Jésus-Christ, personne ne possédait le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens n'avaient pas de Nouveau Testament. C'est entre 130 et 180 après Jésus-Christ que le besoin s'est fait sentir de compiler certains textes pour en faire ce que nous appelons le Nouveau Testament. Et quand la persécution faisait rage, qu'il y avait des lettres qui circulaient dans les églises locales, certaines personnes ont voulu rendre universel le message de Jésus et des apôtres avec un livre canonique. Universel, ça veut dire catholique, hein. Ils ont voulu rendre très catholique, n'est-ce pas, le message de Jésus et des apôtres en le mettant dans un bouquin. Et puis, en dehors de ce bouquin, ça n'est pas la sainte parole de Dieu. C'est eux qui ont décidé ça à cette époque-là, parce qu'il fallait mettre de l'ordre. Je dis pas que c'est mal, mais bon, ce qu'ils ont fait, c'est loin d'être une perfection. Ils ont donc choisi des textes parmi des milliers de textes, et ils ont dominé sur le peuple en lui disant « c'est ça la parole de Dieu et c'est rien d'autre ». Et comme je vous le disais, l'invasion de la secte gnostique cherchait à détruire le catholicisme naissant. Et finalement, c'est le catholicisme qui a gagné. Les gnostiques, ils avaient un évangile qu'ils préféraient aux autres, c'était l'évangile de Thomas. Alors, à cette époque-là, quand l'Église catholique naissante a décidé de choisir des textes pour les mettre dans le droit canon biblique, eh ben l'évangile de Thomas, ils l'ont enlevé parce qu'ils ont dit non, ça nous fait trop penser aux gnostiques. Mais ça ne veut pas dire que l'évangile de Thomas est faux. C'est que simplement que c'était le seul, c'était le premier évangile, c'était celui de Thomas, il était composé, écrit longtemps avant les autres, et voilà. Mais voilà. Donc, il a passé à la poubelle, et maintenant, si vous dites l'évangile de Thomas, tout le monde dit, oh, il n'est pas inspiré. Mais qu'est-ce que vous en savez? Faut d'abord le lire. Ensuite, si vous le lisez, il faut comprendre. Les paroles de Jésus ne sont pas toujours très simples à comprendre. Enfin, si vous le voulez, j'ai écrit un livre qui donne les commentaires de l'évangile de Thomas. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours nous le commander. Finalement, c'est donc le catholicisme qui a gagné, mais rien n'était vraiment organisé. Il n'y avait pas vraiment un collège, si vous voulez. Chaque évêque croyant ce qu'il voulait, obligeait les croyants à croire comme lui. Enfin, c'était encore un peu le boxon, un boxon qui commençait à s'organiser. Ce n'est que plus tard que le credo, ou ce qu'on appelle symbole des apôtres, n'est-ce pas, est apparu. Voilà. C'est toute une histoire. Vers l'an 140, il y a un jeune gnostique d'Asie mineure qui s'appelait Marcion, qui est arrivé à Rome, qui s'attribuait la mission de relever par le retour au paulinisme l'Église retombée, selon lui, dans la vieille ornière judaïque. Alors, pour légitimer sa doctrine, il apporte un recueil de livres devant faire autorité. C'est un évangile semblable à notre évangile de Luc, si vous voulez. Et il y avait une dizaine d'épîtres de Paul que nous possédons. Et voilà ce qu'il a apporté. Les avantages que l'école marcionite a tirés pour sa propagation et pour son maintien de la possession d'un tel livre sacré, ça a pu donner aux chrétiens orthodoxes l'idée de constituer un livre qui leur appartenait à eux. Vous voyez, les premiers à avoir voulu créer un bouquin, c'est pas les chrétiens, c'est les gnostiques. Vous me suivez? Et ça a inspiré les chrétiens à faire un bouquin. Alors pendant cette période, donc l'Église, ça ressemble à un immense appareil d'assimilation et d'élimination qui fonctionne de manière à réunir peu à peu, mais non sans hésitation, franchement, les divers aliments dont le corps peut se nourrir, le corps de Christ, mais ils ont décidé de prendre ce que nous avons aujourd'hui dans ce que nous appelons le Nouveau Testament. Faut savoir quand même que l'idée du canon se dégage de tout ce mouvement ce mouvement de confusion. On se dit que il doit y avoir quand même quelque chose, quelque part, qui soit vrai, et il faut le trouver. Donc, ils se sont donné de la peine. Je dis pas que la Bible, c'est pas bien, c'est très bien. Mais ça n'est pas, il y a d'autres témoignages de Jésus-Christ et, voilà. Alors, Augustin, longtemps après, a décidé officiellement, c'était en 397, je crois, dans un concile, c'était à Carthage. J'ai passé, j'ai été à Carthage. D'ici, le canon, voilà, on ne touche plus. Ça, c'est le Nouveau Testament, et c'est comme ça. Lui, là, Augustin, il attribue l'épître aux Hébreux à Paul. Parce que personne ne sait de qui est cette épître aux Hébreux. Moi, je pense aussi comme lui que c'est de Paul, mais enfin bon. Mais c'était encore un peu la confusion. Et il y a eu des tas de changements notables qui ont eu lieu encore en Occident. Vous savez, même pendant la Réforme, Luther, il n'était pas tellement d'accord avec le Cantique des Cantiques. Il disait que c'était pas possible que ça soit une parole inspirée. L'Apocalypse non plus, il n'aimait pas trop. Enfin bon, la Bible est devenue une collection de livres. Et puis maintenant, les gens disent c'est la parole de Dieu, comme si c'était tombé du ciel. Mais vous voyez un petit peu mieux comment ça s'est goupillé tout ça. Alors je dis pas que c'est mal, mais je dis que ce qu'il nous faut, c'est vraiment l'esprit de vérité. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce qu'alors je vous enverrai Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Alors là, quand je lis la Bible, je sais que c'est la vérité, mais il y a aussi d'autres témoignages, il y a d'autres livres, et c'est bon de les lire. Et c'est quelqu'un m'a écrit dernièrement, vous étudiez l'histoire de l'Église, mais vaut mieux étudier la Bible. Oui, bah, oui, bien sûr, mais, bien sûr, bien sûr. Mais j'étudie aussi la musique, est-ce que c'est péché? Non, bon, alors il faut aussi qu'on peut étudier une langue, on peut étudier des tas de choses. Et moi, je suis amoureux de tout ce qui concerne Jésus, et Jésus a dit, je construirai mon église, je bâtirai mon église. Donc l'histoire de l'église est intéressante, c'est important de savoir, ben voilà, par exemple, l'église catholique, elle vient d'où? Je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est dans les années 70, il y avait eu aux États-Unis, en Guyane, un truc terrible s'était produit, c'était un pasteur pentecôtiste, il s'appelait Jim Jones. Il avait conduit 800 personnes dans un territoire là-bas, et puis il les avait tous massacrés, il les avait poussés au suicide, ils s'étaient tous suicidés. Supposons que des rescapés de ce massacre recréent de nouveau l'église de Jim Jones. Est-ce que vous iriez dans cette église de Jim Jones? Non. Non. Bien sûr que non. Curieusement, par contre, l'église catholique qui a tué des millions et des millions de personnes, voilà, il y a toujours des adeptes. C'est curieux, n'est-ce pas? C'est bizarre. Non, mes frères et sœurs, il faut savoir que l'église est infiltrée. Et que tout ce qui s'appelle l'Église n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Il faut que vous le sachiez. On verra la prochaine fois, on ouvrira le troisième âge et on continuera à étudier toutes ces choses. J'espère que ça vous intéresse. Écrivez-moi pour m'encourager. Je vous remercie d'avance. Que Dieu vous bénisse. Merci mon Dieu d'aider mes frères et sœurs à bien saisir toutes ces choses et à s'en réjouir et à voir... comment ton esprit avait déjà montré aux apôtres, à Jean en particulier, comment l'histoire de l'Église se déroulerait. Merci Seigneur pour cela, que ton nom soit béni, parce que maintenant, à la lumière des Écritures et en lisant l'histoire, nous nous apercevons que tu n'as pas menti, que les choses se sont passées comme tu l'as dit. Merci Jésus, nous pouvons te faire confiance. Amen. Au revoir, à bientôt.